Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Radio Diwa. Pour l'interview du jour, vous pouvez écouter cette émission sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Renaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour présenter un livre.
J'ai décidé, d'abord je ne suis pas écrivain, donc je ne l'ai pas écrit pour écrire, je l'ai écrit pour dire quelque chose, pour témoigner de mon parcours d'enfant et de femme malade. J'ai été malade presque toute ma vie sans que la médecine puisse me soulager. À l'âge de 32 ans, j'ai découvert pourquoi j'étais malade, à travers la rencontre avec un dentiste. Et donc ce dentiste m'a sauvé la vie, il m'a soignée. Et quand j'ai compris que mon problème n'était pas un problème individuel et que c'était une situation qui pouvait toucher beaucoup d'autres gens, j'ai vraiment eu envie de témoigner pour proposer aux gens de faire une politique de prévention surtout, parce que vous verrez, je vous dirai tout à l'heure qu'il s'agit d'un empoisonnement et que la meilleure façon d'éviter l'empoisonnement, c'est de ne pas s'empoisonner. Et c'est plus difficile de faire sortir un poison d'un corps humain. Grosso modo, ce livre raconte mon parcours. Tout d'abord, dans la période où je m'interrogeais beaucoup, où je souffrais sans savoir pourquoi. Ensuite, je raconte comment j'ai trouvé où était le problème et comment j'ai été soignée. Et à la fin du livre, il y a quelques pages qui font un petit bilan, enfin, qui parlent de la santé publique.
Depuis votre jeunesse, vous souffrez de quelque chose en vous ?
C'est pas parti de la naissance. J'ai connu, heureusement pour moi, j'ai une très bonne mémoire de cette période. Entre 0 et 6 ans, j'ai été en très bonne santé. J'étais une enfant qui avait beaucoup d'énergie, qui avait un bon psychisme, bon moral, joyeuse, heureuse, tout ce que vous voulez. Et puis, à partir de l'âge de 6 ans, ma santé s'est effondrée. Soudainement, je suis devenue tout le contraire de ça. J'ai vécu une certaine forme d'autisme, enfin, une légère forme d'autisme, à savoir que j'étais toujours un peu dans la lune. On me parlait, je répondais pas, ou je restais très longtemps sans rien faire. Et puis je devenais peureuse alors qu'avant j'étais une petite fille un petit peu casse-cou, sportive. Et je suis devenue peureuse dans le fait de faire du sport, mais aussi dans les relations. J'avais peur des gens alors qu'avant j'aimais beaucoup les gens, j'allais vers les autres. En fait, ça n'a pas été soigné. En fait, mes parents, vous savez, à l'époque, dans les années 60, on n'écoutait pas les enfants. On faisait pas très attention à eux. Et puis Donc, on m'a pas soignée en fait. Voilà, c'est un peu le reproche que je fais à la médecine, c'est de n'avoir pas su me soigner alors qu'en fait j'avais un vrai problème de santé.
Mais quand vous parliez tout à l'heure d'avoir un léger autisme, c'était diagnostiqué par la médecine ?
Non, parce que ça restait vivable. Quand je dis léger, c'est vraiment léger. C'est-à-dire que c'est moi qui emploie un mot fort comme ça, mais pour que les gens se fassent une idée de ce que c'est. J'étais simplement dans la lune, quoi. Mais ça ne m'empêchait pas d'être plutôt bonne élève à l'école. J'avais un bon parcours scolaire. Donc ça ne dérangeait personne, quoi. Après, j'ai eu d'autres symptômes qui ont accompagné ça. J'ai eu des symptômes physiques. Je vomissais beaucoup, souvent, pour un oui, pour un non. Et donc, les médecins ont très vite classé ça dans les maladies psychosomatiques. Ils ont dit que c'était parce que... Alors, ils ont dit à mes parents qu'il fallait jamais me contrarier. Vous voyez, c'était pas très facile à faire. Et ça a été traité un peu à la légère, quoi. Et il a fallu faire avec. Mais peu à peu, année après année, ma santé s'est vraiment dégradée jusqu'à ce que j'arrive à l'âge adulte. Et je suis entrée dans la période adulte dans un état vraiment épouvantable, quoi. Je m'évanouissais dans la rue, j'avais de gros problèmes de santé, je tenais pas debout, quoi. J'étais très faible et j'avais beaucoup d'allergies. Voilà, grosso modo, je peux pas rentrer trop dans les détails ici, sinon ce serait trop long.
Vous avez pris conscience de ce dont vous souffrez À peu près, à quel âge? Alors, à 32 ans, vous dites tout à l'heure, chez votre dentiste.
Oui, alors d'abord, je suis d'abord allée au bout du processus, c'est-à-dire que j'ai été assez proche de la mort, quoi. Je tenais plus debout que 4 heures par jour, j'avais des maux de ventre, je pouvais plus, et tous mes systèmes dysfonctionnaient, c'est-à-dire je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à digérer, j'avais des douleurs de règles épouvantables, et des règles irrégulières, un système... gynécologie qui fonctionnait pas bien. Qu'est-ce que j'avais? J'étais très nerveuse, j'avais un tempérament assez colérique, mais parfois sans comprendre pourquoi je me mettais en colère. Et on va voir, si vous voulez, tout à l'heure, que en fait ça venait de ça aussi. Et donc j'étais au bout du processus et j'ai quitté. Alors parce qu'à l'époque j'étais modéliste à Paris. Je travaillais et quand j'ai vu que j'étais dans cet état, mon médecin m'a recommandé d'aller vivre à la montagne. C'est ce qui m'a amenée ici, dans le Diwa. J'ai acheté une maison en faible altitude ici, mais un peu. J'ai acheté cette maison pour y mourir, en fait. Je sentais que j'allais mourir, j'en pouvais plus. Et puis, la vie a décidé que c'était pas mon heure. Quand j'ai eu des problèmes de dents, je pouvais pas aller voir mon ancien dentiste, donc j'en ai cherché un ici. Et la chance a voulu, si on croit à la chance a voulu que je rencontre un dentiste qui était spécialisé en intoxication mercurielle et qui m'a reconnu immédiatement comme une personne empoisonnée au mercure, le mercure qui provient des plombages dentaires.
Ça voudrait dire que vous avez eu des plombages très très tôt dans votre vie?
Oui, j'en ai justement à partir de 6 ans.
Votre parcours scolaire, et je ne sais pas si vous avez fait des études par la suite aussi.
Non,
ça ne souffrait pas de ce dont vous souffriez.
Si, ça en a souffert, pas quand j'étais à l'école primaire. À l'école primaire, j'étais une bonne élève. Mais peu à peu, mon cerveau a été agressé par les métaux lourds. Donc, peu à peu, mon niveau scolaire a chuté jusqu'à s'effondrer. Donc, je n'ai pas le bac. J'ai été réorientée dans le secteur de la mode parce que je savais parfaitement coudre. J'ai appris toute petite. Je suis devenue modéliste. Mais alors qu'en fait, quand j'étais petite, tout portait à croire que je ferais une belle carrière parce que j'étais intelligente, quoi. J'avais des bonnes notes. Mais mon parcours scolaire, oui, s'est effondré. Je considère qu'il s'est effondré à cause de ça.
Et vous avez pris conscience exactement de ce problème à partir de quel âge, donc
Le problème de santé, vous voulez dire
Vous le viviez dès très jeune, à partir de 6 ans, vous vous sentiez déjà différent et des autres personnes autour de vous, d'un mal que vous souffriez et que d'autres ne comprenaient pas, c'est ça?
Oui, on peut le dire, oui. Quand j'étais une enfant souffreteuse, on pourrait dire, j'étais fragile et souvent, comment vous dire, quand ma mère appelait le médecin, il allait directement dans ma chambre, alors que nous étions 5 à la maison. Et pour lui, c'était systématique, ça pouvait être que Sylvie qui était malade. Et puis, oui, ça m'amène à un sujet intéressant. C'est que, en fait, le mercure a une incidence sur le comportement, il perturbe le comportement puisqu'il va dans le cerveau et particulièrement dans le système limbique, qui est le foyer des émotions. Et donc, il perturbe le comportement. Et donc, ça a provoqué des problèmes dans mes relations aux autres. Ça m'a rendue alternativement agressive ou dépressive. Je tombais dans des pics comme ça, soit de l'un, soit de l'autre. Et c'était très difficile. Voilà. Et puis, ça a développé chez moi un terrain de chimico-sensibilité, vu que la chimie arrivait par l'autre, puisque la personne, moi, quand j'ai commencé à m'en apercevoir, je m'en protégeais. Mais et c'est toujours vrai actuellement, quand je rencontre des gens qui sont parfumés, ça me rend malade, ça me pompe l'énergie, ça m'affaiblit physiquement et cérébralement. Et du coup, si vous voulez, quand une personne me rencontre, au début, je suis en forme puisque je viens de chez moi, admettons, et j'étais protégée. Et au fur et à mesure de la discussion, par ma présence, le fait d'être en présence de cette personne, par la lessive sur ses vêtements, ses parfums et autres, ça dégrade mon état. Donc au bout d'un certain temps, je deviens un peu comme quelqu'un qui est un peu boudeuse. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est difficile à définir.
Vous mettez en retrait.
Je me mets un peu en retrait ou bien mon visage se ferme ou je peux aussi, à un certain moment, être un peu énervée, agressive parce que mon système nerveux est attaqué. Et donc, ça, vous voyez, ça perturbe la relation parce que la personne pense que tout d'un coup, y a un problème relationnel, quoi.
Est-ce que, petite, moi, ça, je crois en avoir un vague souvenir, vous mangiez un peu la peinture au plomb, qui était sucrée ?
Non, j'ai pas fait ça, mais j'en ai certainement absorbé dans l'environnement, il y en avait certainement. Mais il faut savoir que dans les plombages, il n'y a pas de plomb. On dit plombage, mais il n'y a pas de plomb. Il y a essentiellement du mercure, mais le mercure étant un métal liquide, il faut le solidifier par un alliage avec d'autres. Notamment l'argent, mais l'argent est aussi toxique et puis d'autres plusieurs alliages. Il y a aussi du mercure dans les vaccins, il y a aussi de l'hydroxyde d'aluminium et c'est extrêmement toxique. Et justement, c'est à l'âge de 6 ans que j'ai reçu le BCG et je pense avoir été victime à la fois du BCG et des plombages. Ça fait une espèce de combinaison des deux qui ont acidifié mon terrain et m'ont mise dans cet état. En fait, actuellement, c'est la grande mode du tout psychisme. On pense que tout vient du psychisme. Mais en fait, un des discours de mon livre, c'est d'expliquer aux gens que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un corps physique effondré par une intoxication mercurielle peut avoir une incidence et a une incidence sur le psychisme et le comportement. Ça peut rendre vraiment dépressif, ça peut même pousser une personne à se suicider. Ça peut vraiment perturber le psychisme. Donc mon message, si vous voulez, dans ce livre, c'est de dire aux gens, quand vous êtes malade, commencez d'abord par nettoyer votre organisme, parce que c'est vrai pour nous tous, de toute façon, nous sommes, je vous disais au début, les occidentaux sont des poubelles chimiques. Commencez par nettoyer votre organisme et si vous le faites, vous avez des chances d'évacuer 80% de vos névroses. Et à la fin de ce nettoyage, s'il reste encore des névroses, alors en deuxième étape, allez voir un psy. Mais actuellement, nous faisons le contraire. Nous courons chez le psy et ça ne peut rien changer sur quelqu'un dont les névroses proviennent d'une intoxication aux métaux lourds.
Vous êtes intéressé exactement sur cette question de l'utilisation des métaux par la médecine. Vous pouvez en dire quoi, l'utilisation de métaux sur le corps en prévention de maladies
Justement, dans mon livre, il y a un chapitre entier, un gros chapitre sur le sujet des vaccinations et je me positionne très clairement là-dessus. Je considère que la vaccination fait exactement le contraire de ce qu'elle est censée faire. Ce que je dis m'appartient, mais je le démontre. J'appuie ce que je dis avec une argumentation très solide qui a été validée par des scientifiques de très haut niveau. Je me positionne vraiment contre les vaccinations, pas seulement à cause des métaux, mais dans le processus en général, dans le procédé en général. Mais je ne vais pas vous démontrer ça en quelques mots ici. Si vous voulez, ce que je peux en dire, c'est que les métaux lourds agressent le système nerveux en priorité. C'est la zone, ils s'en sont gourmands, c'est la première chose qu'ils détruisent. Et donc, c'est la cellule nerveuse qui héberge le système immunitaire. Donc, quand on agresse la cellule nerveuse, on affaiblit le système immunitaire. Or, les vaccins contiennent des métaux lourds, donc ils agressent la cellule nerveuse, donc ils attaquent le système immunitaire. Vous voyez, en quelques mots, je viens de vous démontrer, si vous voulez, que le vaccin, c'est une aberration. Maintenant, voilà, c'est quelque chose que je démontre, que je cite des médecins, des scientifiques. C'est longuement développé dans mon livre. Je vous invite à le lire parce que c'est très riche en informations. Ça s'appuie sur ma propre expérience, mais aussi sur des livres que j'ai lus et des conversations que j'ai eues avec des scientifiques.
À partir de là, donc, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, justement ?
Alors, c'est aussi une longue histoire, en fait. J'avais d'abord écrit une histoire d'amour. Une histoire d'amour que j'avais vécue, que je voulais envoyer à l'homme, au héros de l'histoire, pardon, pour lui expliquer qu'est-ce que j'avais vécu, comment j'avais vécu ma relation avec lui, toute la partie qu'il n'avait pas vue, si vous voulez, Et en fait, je venais d'écrire cette histoire, ça m'avait pris beaucoup de temps, mais ce n'était pas du tout pour écrire un livre, vous voyez, c'était pour ma vie personnelle. Et puis, j'ai eu un enfant, enfin, au moment où j'avais fini la rédaction de cette longue lettre, j'ai eu un enfant qui avait 4 ans, qui devait rentrer à l'école, et puis je me suis confrontée avec l'institution, puisque je ne voulais pas vacciner ma fille. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut absolument, c'est là où j'ai eu envie d'écrire un livre, où j'ai eu envie de raconter comment dans notre société, en fait, on avait une attitude prédatrice sur les enfants au nom d'une prétendue protection.
Pardon de vous couper, mais là, vous répétez souvent ce mot prédation, prédatrice.
Oui.
C'est, prédateur, pour moi, c'est un animal qui chasse pour se nourrir d'autres animaux.
Oui.
Et dans l'esprit de ce que vous l'utilisez, ça serait plutôt la société qui chasse l'individu, ou je ne sais pas comment vous abordez cette question.
Oui, en fait, globalement, mon livre veut dénoncer une attitude délétère, si vous voulez, autodestructrice, une attitude prédatrice de l'homme sur sa propre espèce. C'est ça que c'est en ça que je veux interpeller mon lecteur, c'est de dire, mais regardez, en fait, on voit la maladie comme une épée de Damoclès, comme quelque au-dessus de la tête, comme quelque chose qui peut nous tomber. Si on a nous tomber dessus, si on a beaucoup de malchance, alors qu'en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est nous qui tricotons cette situation, c'est nous qui fabriquons les maladies par une attitude, une forme d'alimentation, une forme de médecine et autres, et un comportement aussi. Dans mon livre, je parle aussi de une certaine forme de sexualité pratiquée par beaucoup d'hommes qui est imprégnée d'un esprit dominateur et qui fait beaucoup de mal aux femmes. C'est important. C'est ce que je voulais faire aussi. Je voulais dire à l'homme que quand il a une attitude prédatrice vis-à-vis de... Enfin, une sexualité dominatrice vis-à-vis de la femme, il faut qu'il sache, parce que je crois qu'ils ne le savent pas, beaucoup ne le savent pas, il faut qu'il sache qu'il lui fait du mal. Et comme il lui fait du mal, eh bien, ça la rend malade. Voilà, enfin, c'est expliqué plus en détail dans mon livre. Voilà, il faut absolument que les femmes s'expriment. Et j'ai décidé de le faire, voilà, à travers ce livre. Voilà, je vous disais tout à l'heure que j'avais d'abord écrit ce texte pour cet homme. Et je me suis rendu compte que justement, il fallait l'utiliser. Je l'avais déjà écrit avant et je l'ai récupéré, je l'ai mis dans mon livre pour le dire, aux hommes, quoi, si vous voulez, pour le dire à la population, quoi. Alors, je voudrais quand même dire que tous les hommes ne sont pas comme ça, heureusement. Je considère qu'il y en a beaucoup.
C'est un peu aussi votre engagement dans le mouvement féministe. En fait, vous abordez plein de sujets oui. Par rapport à ce livre, je pense. D'ailleurs, vous étiez co-organisatrice de ces 3 journées du week-end dernier sur 10, par rapport à Lilith... Et
oui.
Puis d'autres spectacles qui avaient lieu, la criée, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes la seule dans votre situation à souffrir? Ou alors vous pensez que beaucoup de personnes souffrent du même mal sans le connaître? Et c'est peut-être l'intérêt de votre livre que ces personnes soient amenées à se rendre compte peut-être aussi de leur douleur et de donner un sens à leur douleur?
Oui, c'est très bien vu. Je vous remercie de la façon dont vous exprimez les choses. C'est exactement ça. J'ai presque rien à rajouter. Vous avez très bien cerné. Je me sens vraiment entendue. Quand vous me faites un retour comme ça, je me sens vraiment entendue. Et ça me touche beaucoup que ce soit un homme qui me le dise. Et voilà, oui, j'ai vraiment envie d'interpeller les femmes sur le fait qu'elles ont le droit de s'exprimer, parce que ce que je constate, non, effectivement, je ne suis pas la seule, ça j'en suis certaine. Et ce que je constate, c'est que cette forme de sexualité dominatrice des hommes est complètement admise et que les femmes font avec, si vous voulez, qu'elles subissent et qu'elles se taisent et qu'en se disant, ben, de toute façon, même si c'est pas lui, ce sera un autre, etc. Donc, si vous voulez, j'invite les femmes à dire que ça leur fait mal, simplement, sans entrer en conflit, sans faire la guerre, mais juste dire que ça fait mal, parce que ce que je crois comprendre, c'est que les hommes ne s'en rendent même pas compte. Ils attendent des femmes qu'elles trouvent ça normal. Et que pour eux, elles viennent au monde pour ça. voyez, c'est ça que je voudrais qu'il change. Alors voilà, mon livre interpelle tout le monde en fait. Il interpelle les femmes, il les invite à dire dites aux hommes que ça vous fait mal. Il interpelle aussi les hommes en leur disant ben regardez, parce que oui, je dois dire que dans mon livre, il y a quelques scènes de sexualité qui sont décrites justement de cette forme, qui peuvent être un peu choquantes. Mais j'ai fait exprès de les décrire pour que les hommes se voient. Parce qu'un homme qui le fait ne se voit pas forcément. Il se rend pas compte. Alors que s'il se lit, s'il se voit à travers la lecture, ça peut déclencher certaines choses. D'ailleurs, j'ai l'exemple d'une personne, un homme, un jour qui est revenu me voir sur une foire bio où je vendais mes livres. L'année d'après, il avait acheté mon livre. Quand il est revenu me voir, il m'a dit « Je vous remercie infiniment parce que grâce à la lecture de ce livre, j'ai changé mon comportement vis-à-vis de ma femme. J'ai changé mon comportement sexuel. Ça m'a beaucoup apporté. » Vous voyez, donc, c'est pas vraiment un livre féministe au sens classique du terme. Moi, je veux pas entrer en guerre avec les hommes. J'ai envie de dire « Ça suffit. » J'ai été interviewée ici... dans cette même pièce, il y a quelques jours, justement pour cette manifestation féministe. Et j'ai bien dit clairement que dans mon féminisme, il y avait ma forme personnelle de féminisme. Je n'étais pas en guerre avec les hommes, qu'au contraire, je les appelais à faire la paix avec nous, quoi. Pour moi, c'est important que les hommes et les femmes se réconcilient. C'est mon objectif, c'est mon désir profond, quoi. Que ce qui se réconcilie individuellement, enfin, à l'intérieur de chaque couple, mais aussi dans la société, qu'on arrête de se taper dessus, qu'on arrête de se comparer, on dit, en cherchant à se mettre dans une classification hiérarchisée qui est supérieure à l'autre, ça devient vraiment fatigant. C'est impossible de nous comparer. Chacun a ses propres qualités, ses propres compétences, et on est fait pour marcher ensemble, quoi. Voilà.
Oui, pour se compléter.
Voilà.
Tout de même, aujourd'hui, je pense que la femme a le droit de citer, en France du moins. Ce n'était pas le cas il y a peut-être 40 ans ou 50 ans. Est-ce que la femme, quand même, a la capacité aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, revendiquer et même dénoncer? Je crois même qu'elle en vient peut-être encore maintenant aux actes aussi. On peut se rendre compte, je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais le mouvement féminin, vous en pensez quoi de ces femmes qui se mettent poitrine nue pour dénoncer une injustice ou une politique totalitaire, par exemple?
Le mouvement féminin, j'en pense rien, en fait, si vous voulez, parce que moi, je donne la place à chaque personne. Enfin, chaque personne a le droit d'utiliser les moyens qu'elle choisit, si vous voulez. Ces femmes, elles font ce qu'elles peuvent, mais... En fait, je pense que si elles en viennent à faire de la provocation comme ça, c'est justement, en général, quand on fait de la provocation, quand on essaye d'utiliser des moyens forts, c'est quand on a d'abord essayé des moyens plus doux avant, mais qui n'ont pas fonctionné. Ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, effectivement, depuis, admettons, une cinquantaine d'années, bien sûr, la femme a le droit de a plus de place, a le droit de s'exprimer. La preuve, je suis à ce micro. Et j'ai pu écrire ce livre. Mais c'est encore très théorique. C'est écrit dans des textes, des beaux textes qui disent que l'homme et la femme sont d'égaux en droit. Mais sur le terrain, je vous garantis que sur tous les plans, ce n'est pas une réalité. C'est parfois une réalité, mais ça ne l'est pas dans tous les cas. Je pense que qui a manqué quand on a écrit ça dans les textes il y a 50 ans, on l'a juste écrit dans les textes, on s'est imaginé que ça suffirait pour que la société change. Mais en fait, il aurait fallu accompagner ça d'une éducation de la population, de rééduquer, d'aller dans les écoles et d'apprendre aux petits garçons, de leur expliquer qu'ils doivent considérer la petite fille comme déjà comme une personne humaine, pas comme... Un futur animal domestique qui va servir à leurs besoins personnels. C'est vraiment une personne humaine au même titre que lui et qui lui doit autant de respect, qu'elle a autant que lui droit à sa dignité qu'elle apporte des choses en complément de ce que lui n'apporte pas. Et qu'elle est aussi, elle peut être aussi intelligente que lui sur le plan intellectuel. Elle a le même cerveau, je veux dire, elle a les mêmes capacités cérébrales. Donc c'est ça qu'il fallait faire sur le terrain. Or, ça n'a pas été fait et aujourd'hui, on fait le constat de cet échec. On fait pas de cet échec, mais de ce manque, de ce qui manque, quoi. Et donc, voilà, je pense que c'est pour revenir au Femen, je pense que ces femmes font ça parce qu'elles constatent que les lois ne sont pas appliquées. C'est marqué dans des lois, mais ça n'est pas appliqué. Si vous voulez, même dans la rue, on peut encore se faire traiter de salope juste parce qu'on a une mini-jupe, ou etc. Alors que nous, les femmes, on n'insulte pas les hommes comme ça facilement dans la rue pour une raison ou pour une autre, juste pour la façon dont ils sont habillés. Vous voyez, il y a quelque chose. Et c'est admis, c'est ça qui ne va pas. Donc, voilà, l'objectif de mon livre, c'est de dire non, on n'en veut pas et on n'est pas d'accord.
Je pense même qu'il y a un retour de ce pouvoir de l'homme sur la femme qui avait disparu quand même, me semble-t-il, à partir de 68. Il y a eu quand même, les langues se sont déliées. Mais je crois que là, depuis quelques années, il y a un retour au machisme, entre guillemets, ou une domination masculine. Et on le voit aussi en longueur de journée. C'est qu'il y a toujours des inégalités de salaire, de reconnaissance sociale de la femme, tout simplement.
Mais oui, mais ça, je peux pas trop vous en parler parce que sur le plan politique, je suis pas trop au courant précisément, mais j'en entends vaguement parler autour de moi. Oui, il paraît qu'il y a même des mouvements qui se mettent en place, quoi, des hommes qui se rassemblent pour récupérer le pouvoir. Alors, si vous voulez, moi, ce que j'ai envie de dire, d'une, c'est que personnellement, ça me fait pas peur, ça m'impressionne pas, parce que j'ai conscience de ma dignité et de ma place dans la société. Ça ne me fait pas peur. Mais j'ai juste envie de leur dire, s'il y en a qui m'écoutent, j'ai envie de leur dire, mais c'est dommage pour vous, pas pour nous. Enfin, bien sûr, c'est dommage aussi pour nous, mais c'est surtout dommage pour vous, parce que je pense qu'un homme qui vit toute sa vie avec cette croyance qu'il est supérieur et qui a toujours besoin de sauver la face, d'être gagnant, d'être dominant, ça doit être vraiment très fatigant pour lui de toujours chercher à être au-dessus, quoi, d'une manière ou d'une autre, que ce soit professionnellement ou sexuellement ou autre. Mon Dieu, mais j'ai pitié d'eux, quoi. Ça me fait de la peine pour eux. Je me dis, mais ça doit être fatigant pour eux de toujours courir après ça. Alors que, en fait, j'ai envie de leur dire aussi que, parce qu'il en existe des hommes comme ça, heureusement, quand les hommes sont vraiment en paix avec nous et qui nous font la place, ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de nous que ce qu'ils ne reçoivent quand ils viennent par la force, quoi. Et d'ailleurs, quand ils viennent par la force, ils ne reçoivent rien, strictement rien. Alors que la femme a beaucoup à donner, et y compris sur le plan sexuel. La sexualité peut s'inscrire dans tous les barreaux d'une échelle, de bas en haut. En bas, ça peut être le viol, mais en haut, ça s'appelle la sexualité sacrée, ça existe. J'en ai fait personnellement l'expérience. Et croyez-moi, les retours que j'ai eus des hommes, c'était vraiment extraordinaire. Ils étaient vraiment comblés, quoi, par ce qu'ils recevaient de moi. Et réciproquement, bien sûr. Mais je veux dire, j'ai aussi été violée. D'ailleurs, il y a une scène de viol dans mon livre. Je vous le dis tout de suite. Elle n'est pas très longue, elle n'est pas très développée. Mais j'ai aussi été violée. J'ai connu un petit peu tous les niveaux. J'ai eu aussi des rapports sexuels très moyens avec des hommes qui ne savaient pas faire, quoi. Et voilà, j'ai juste voilà ce que j'ai envie de dire à ces hommes. J'ai envie de leur dire, mais si vous faites la paix avec nous et si vous nous rendez une place que vous nous volez, en fait, parce qu'elle nous revient de droit à la naissance, eh bien, vous allez voir, vous allez recevoir des choses fabuleuses de nous. Nous sommes faites pour offrir énormément de ce qui vient du plus profond de nous.
Et vous résumez, en gros, que c'est pour l'humanité occidentale, l'homme occidental. Je pense que dans d'autres continents, la société est différente, ou vous pensez qu'il y a aussi une domination universelle de l'homme sur la femme ?
Alors là, au risque de vous décevoir, je pense que c'est plutôt universel. Enfin, je suis pas allée dans les autres continents, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'ai eu des amants qui étaient étrangers, enfin, pas au sens de pas français, quoi. J'ai pas vu de grande différence. Non, je pense que, enfin, je veux pas citer précisément Mais vraiment, oui, je pense que c'est universel. Et bon, il y a peut-être des civilisations que je ne connais pas, je ne peux pas vous dire. Je pense que les Orientaux peuvent être tout autant dominateurs. On voit en Inde, avec les castes et tout ça, et les femmes, il y a des... Je crois qu'en Inde, je ne sais pas si c'est dans toutes les castes, mais je crois que quand l'homme meurt, la femme est tuée aussi parce que l'homme est mort, quoi. Mais enfin, j'en ris, mais parce que c'est dramatique. Enfin, je ne sais pas comment... J'en ris pour pas en pleurer, quoi. C'est grave. Et puis bon, dans l'islam, en fait, les islamistes aussi, enfin l'islam quand il est pris à l'extrême, il est dramatique aussi. Mais paraît-il que dans le Coran, en fait, la femme est respectée. Mais les islamistes, les extrémistes sont des gens qui déforment le Coran à leur avantage.
Nous avons le même cas de figure en Occident, en France. La manif pour tous, les détracteurs du mariage pour tous, le contraire du mariage pour tous, c'est-à-dire la manif pour tous. Est-ce que vous pensez que ce mouvement-là prend de plus en plus d'ampleur en France ?
Je ne sais pas. Je pense que s'il est essentiellement catholique, il suit le mouvement catholique. Je ne sais pas s'il y a de plus en plus de catholiques. J'ai l'impression que ce serait plutôt de moins en moins. Et puis, de toute façon, j'essaye de... Moi, quand les gens revendiquent, j'essaye de comprendre pourquoi ils revendiquent et qu'est-ce qui les fait souffrir comme ça, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qui va pas, quoi, où est le problème. Donc, moi, j'ai pas vraiment de positionnement. Je suis tout à fait respectueuse des relations homosexuelles. Ce n'est pas mon cas. Et en même temps, j'ai envie de garder une oreille ouverte aussi aux revendications de ces gens qui sont contre l'homosexualité, d'essayer de comprendre pourquoi ils se rassemblent et pourquoi ils manifestent. S'ils font ça, c'est qu'ils se sentent menacés. Menacé par quoi? Je ne sais pas, j'ai juste envie de me poser la question, mais je n'ai pas la réponse. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut faire la place à tout le monde, quoi. Mais en même temps, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qui vous fait peur, puisque personne ne vous oblige, vous, à être homosexuel? De quoi avez-vous peur? C'est qu'on dirait qu'ils se manifestent comme si on les obligeait, eux, à faire quelque chose, alors qu'en fait, on essaye de donner place à tout le monde. Voilà, que chacun fasse comme il a envie. Enfin, si vous voulez, moi, personnellement, ce que je pense par rapport à l'homosexualité, c'est que je ne suis pas contre, mais simplement, pour moi, ce terme homosexualité, ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, par définition, la sexualité, c'est la rencontre d'un pôle masculin et d'un pôle féminin. La nature nous le dit, si vous voulez. La nature a été faite pour qu'il y ait un pôle masculin et un pôle féminin qui se rencontrent. Et qui puisse permettre la reproduction de l'espèce. Après, qu'on dise qu'il y ait de la sexualité entre deux sexes semblables, ça me paraît étrange. Mais voilà, moi j'ai cette forme de tolérance. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent tourne sur nous et crie au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, la vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors?
On va peut-être arriver sur le livre aussi, qui s'appelle comment?
Alors le titre du livre c'est « Si ça se peut », six points d'exclamation, ça se peut. C'est pour répondre au déni de la médecine qui dit « mais ça se peut pas ». Oui, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, quand j'allais voir les médecins, je dis quand j'allais voir les médecins parce que je ne vais plus les voir. La dernière fois de ma vie que j'ai pris un médicament, c'était il y a 25 ans. Quand on dit aux médecins ou quand on souffre de la pathologie dont j'ai souffert, les médecins nous disent mais vous n'êtes pas malade, vous n'avez rien, c'est psychosomatique, allez, ils vous envoient chez les psys. Et maintenant que j'ai découvert quelle maladie, enfin c'était pas une maladie, c'était un empoisonnement, et que je suis sortie de ça grâce au nettoyage de mon organisme, les médecins encore aujourd'hui me répondent ça se peut pas. Les dentistes nient l'intoxication mercurielle par les plombages. Il y a beaucoup de déni de la médecine par rapport à ça. Donc je me suis dit ben tiens, je vais mettre ce titre pour répondre, pour dire ben, si ça se peut, et sous-entendu je vais vous le prouver. Et j'ai mis 5 ans pour écrire ce livre. Il est très épais. Et il est très très riche en informations.
Vous avez une méfiance envers la médecine donc aujourd'hui?
Ah ben oui, c'est clair. Oui, j'ai une méfiance, mais pas toujours pareil. Pas dans le sens je lève pas de bouclier, je suis pas.
Ça serait plus une méfiance de l'ordre du préventif,
voilà,
plutôt que du curatif.
Voilà, c'est ça. Moi, je pense que. Prendre des médicaments quand on souffre d'une maladie dégénérative, c'est une aberration, tout simplement parce que une maladie dégénérative, ça vient d'une intoxication par les produits chimiques ou aussi, je l'ai dit aussi, par l'émotionnel, mais ça vient aussi des produits chimiques. Donc en fait, quand on a une maladie dégénérative, on souffre déjà par la chimie, et quand on va voir un médecin, il nous donne des médicaments et on en rajoute une couche. Voilà, c'est tout. Et quand on a le cancer, on fait de la chimiothérapie. Pour moi, c'est une aberration. Je l'ai vécu même dans ma vie personnelle. Il y a 2 ans, j'ai assisté à la mort progressive de mon frère par le cancer. Un cancer d'abord de l'estomac qui s'est généralisé après. Et voilà, je l'ai vu prendre de la chimio et il est mort quand même. Et moi, j'ai beaucoup souffert dans cette situation parce que j'ai tout fait pour essayer de le convaincre d'arrêter ça et de revenir en arrière et de faire autre chose. Je lui ai proposé d'autres formes de soins et il ne m'a pas écouté et il est mort. Et donc j'arrive mieux à aider des lecteurs de mon livre qui me remercient, qui m'envoient des messages de remerciement, qui me disent « voilà, vous m'avez aidé à comprendre pourquoi j'étais malade, je me suis reconnue dans tous les symptômes que vous décrivez ». Donc voilà, dans ce livre, je décris en détail dans la vie courante, dans le quotidien, qu'est-ce que ça provoque comme symptômes. Donc les gens peuvent se reconnaître, ils peuvent se dire « mais oui, mais j'ai exactement les mêmes problèmes ». Donc ils peuvent s'identifier comme une personne souffrant d'intoxication mercurielle. Et de nos jours, la médecine n'a aucune solution à apporter à ces gens-là. Ils sont dans une grande détresse. Et vous savez, j'ai un site qui parle de mon livre. Donc, par ce site, j'ai des conversations avec mes lecteurs ou avec des gens qui lisent pas mon livre, mais qui me posent des questions et je leur réponds. Je me rends compte que les gens sont des... J'ai des messages, mais qui sont terribles. Je me rends compte que les gens sont dans des détresses immenses. Ils ont des symptômes encore pires que ceux que j'avais moi. Mais je me dis, mais comment ils font pour tenir encore debout? Il y a des femmes qui ont des enfants, qui ne savent plus comment faire, qui ne peuvent pas s'en occuper parce qu'elles sont couchées, parce qu'elles sont dans des états de délabrement incroyables. Et la médecine ne peut rien pour elles. Et il leur reste qui? Des gens comme moi. Je dis des gens comme moi parce que je ne suis pas la seule. On est quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de livres écrits là-dessus. Et les gens s'accrochent à nous parce qu'ils n'ont plus que nous. Voilà.
Justement, vous parliez de ces moyens de soins qu'offre la médecine officielle, celle qui est reconnue pour être remboursée ou prise en charge à 100%. Et est-ce que vous dénoncez aussi ce déni de la médecine sur les autres soins, types de soins qui existent justement et dont vous semblez promouvoir?
Oui, bien sûr, oui, ça va avec. Je trouve ça vraiment dommage que la médecine alternative ne soit pas remboursée. Et que même parfois elle est pourchassée, c'est dramatique. On pourchasse les gens parce qu'ils ne, ou bien on fait tomber un médecin, on le prive de ses droits, de son droit d'exercer, parce qu'il n'a pas utilisé la médecine chimique, même s'il a obtenu des résultats. J'insiste là-dessus, c'est vraiment, mais c'est affolant. On marche sur la tête dans notre société. On poursuit quelqu'un qui obtient des résultats parce qu'il n'a pas utilisé la bonne méthode. Pour ma part, je perçois ça vraiment comme un comportement extrêmement sectaire. Pour moi, la médecine, c'est presque une secte, quoi. Enfin, ça fonctionne comme une secte.
Il y a un ordre des médecins.
Oui, oui. D'ailleurs, on appelle, c'est étonnant parce qu'on n'appelle pas ça une fédération ou un syndicat ou je ne sais pas quoi, des médecins, on appelle ça un ordre. Il faut savoir que un ordre, c'est une, par définition, c'est une organisation spirituelle hautement hiérarchisée. Donc s'il y a un ordre des médecins, c'est quand même assez inquiétant. Je trouve ça très inquiétant que la médecine soit chapeautée par un ordre. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça fonctionne comme une secte. Et en fait, souvent, la médecine accuse les autres de fonctionner comme des sectes. Et j'ai envie vraiment d'interpeller la population sur le fait que c'est plutôt le contraire. Mais c'est très difficile d'interpeller les gens là-dessus dès que... Enfin, vous voyez, moi j'ai une image comme ça. Je dis, quand on utilise un stylo qui n'écrit plus, quand le stylo n'écrit pas, qu'est-ce qu'on fait? On en change, on en prend un autre. Mais actuellement, on est vraiment en mesure, n'importe qui est en mesure de constater l'échec de la médecine d'État parce que tout le monde est malade, c'est affreux, la santé publique est en train de s'effondrer. Mais on continue quand même, on n'est pas capable de faire ce constat d'échec, de dire on va essayer de revoir notre position et sur cette médecine et puis peut-être lui demander des comptes aussi, lui dire mais qu'est-ce que vous avez fait? On vous a donné le monopole de la santé, regardez ce que vous en avez fait et puis leur demander des comptes parce que non seulement ils ne soignent pas les gens mais ils les tuent, on meurt par la médecine. Je considère que mon frère est mort par la médecine.
Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de docteurs Diafoirus en France?
Je suis désolée, mais je ne sais pas ce que c'est.
Diafoirus, c'était le médecin dans Le Malade Imaginaire de Molière.
Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, alors... Oui, je vous remercie de me poser cette question parce que ça me permet de me repositionner. En fait, moi, j'ai rien contre le médecin de quartier. Le médecin de quartier, c'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, c'est quelqu'un qui a voulu faire ce métier, j'imagine au départ pour sauver les gens, qui était bourré de plein de bonnes intentions, qui était persuadé qu'il allait soigner les gens parce que c'est ce qu'on lui a dit, donc qui a appris consciencieusement, qui a donné plusieurs années de sa vie pour apprendre cette discipline c'est pas une discipline, c'est pour apprendre cette science. Et donc, c'est quelqu'un que je respecte et que je peux comprendre aussi. Mais ce que je dénonce fortement, c'est la médecine, pas le médecin. Vous comprenez? C'est ce procédé qui consiste à mettre des produits chimiques inconsidérément dans l'organisme sans réfléchir aux conséquences que ça pourra avoir. Et puis d'utiliser des gens pour mettre en pratique cette science. Non, je ne suis pas d'accord avec la médecine. Par contre, je suis tout à fait en paix avec les médecins. Je pense qu'ils sont eux-mêmes victimes de ce système, quoi. Et certains médecins, il y a de plus en plus de médecins, d'ailleurs, qui s'en rendent compte. Et pour eux, quand ils ouvrent les yeux et qu'ils comprennent, mais c'est un drame pour eux. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont vacciné des gens et qu'ils ont fait beaucoup de mal.
Vous attaquez aussi un peu la pharmacopée aux quelles éditions ?
Mais en fait, personnellement, j'attaque personne, mais disons que je dénonce, hein, c'est le mot est plus juste. Bien sûr, ça va avec. C'est quelque chose qui est en train de monter. On entend de plus en plus souvent aux informations que tel ou tel médicament a rendu les gens malades. Et on commence à demander des comptes aux gens de la pharmacopée, à l'industrie pharmaceutique. On se rend de plus en plus compte que c'est une affaire de business. Après, bon, moi, ça, c'est mon affirmation personnelle. Moi, j'en suis convaincue, mais... Moi, j'invite les gens vraiment à ouvrir les yeux, à réfléchir, à se poser des questions, et puis à lire mon livre, parce que, en fait, ce qui affole les gens quand on leur dit que la médecine, ça fonctionne pas, c'est qu'ils savent pas quoi mettre à la place. Mais moi, mon message, c'est de dire, mais il y a autre chose à la place. Et d'ailleurs, la médecine, ça n'existe que depuis un siècle et demi. L'humanité a survécu bien longtemps avant. En fait, le processus de guérison, il est intrinsèque à l'être humain. Il est en nous, il fonctionne en permanence, jour et nuit. Tant qu'on est vivant, on a un système de guérison qui fonctionne tout seul. Vous avez qu'à voir, si vous vous coupez, vous allez voir, ça va cicatriser tout seul. Un os qui s'est fracturé, il va se reconsolider tout seul. Et en fait, c'est ça, la guérison, elle se fait toute seule. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais je disais tout à l'heure que le système immunitaire, il était au sein de la cellule nerveuse. Donc la gestion de la santé, ça consiste à faire de la prévention et à faire en sorte de ne pas agresser le système nerveux. Voilà, après, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à savoir que je ne peux pas vous résumer ici. Mais c'est essentiellement, c'est ça, il faut protéger la cellule nerveuse. Et la cellule nerveuse, elle est attaquée par la chimie et par l'émotion. Il y a deux choses très importantes parce que l'émotion acidifie.
Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Vous pouvez rappeler alors le titre, Sylvie Renaud, de votre publication ?
C'est « Si, point d'exclamation, ça se peut ». Il n'y a pas d'éditeur, ce livre est auto-édité. Je n'ai pas cherché d'éditeur parce que je savais d'avance que personne ne voudrait éditer mon livre. Mais ce n'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce qu'on m'a expliqué que quand on prenait un éditeur, on n'était plus propriétaire de son texte. On le vend, si vous voulez, et l'éditeur est propriétaire. Et pour moi, ce texte est tellement précieux que c'est hors de question que je le vende à qui que ce soit. Il restera ma propriété toute. Tant que je serai vivante, si vous voulez. Donc je l'ai, parce que je ne veux pas prendre le risque que quelqu'un se l'approprie et ne l'édite plus, vous voyez. Il faut qu'il reste vivant, il faut qu'il soit sur le terrain tout le temps. Et donc j'ai décidé de l'auto-éditer, mais ça pose un problème pour moi au niveau des médias, parce que quand on n'est pas édité, quand on n'a pas d'éditeur, les médias ne veulent même pas nous lire, on ne les intéresse pas, ils ne veulent rien savoir. Donc ça, pourtant ce livre existe depuis 2006, ça fait 8 ans, et ça fait 8 ans qu'il n'est pas soutenu par les médias. Donc je vous remercie d'autant plus de m'inviter à cette émission, c'est un moment important pour moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous m'avez donné la parole. Donc voilà, il ne se vend donc que sur Internet, je le vends personnellement, je peux le donner à quelqu'un, voilà, qui me l'achète, je le donne de la main à la main, ou je peux aussi le vendre sur Internet.
Et vous avez un blog ou un site Internet, justement, avec une adresse à donner ?
Oui, j'ai un site qui s'appelle donc www.unlivreouvert.fr. unlivreouvert.fr. J'ai choisi cet intitulé parce que c'est le titre d'un de mes chapitres.
C'est un livre qui se transforme au fil des années aussi. Vous avez fait qu'une édition, une publication.
Non, je le réédite tous les 100 exemplaires parce que je le fais imprimer seulement en 100 exemplaires. Mais l'histoire de base est toujours la même. Simplement, j'ai remanié l'introduction au fil des... Il n'y a que l'introduction qui a été remaniée au fil des éditions. Et aussi, il y a eu quelques petites informations comme ça. Une petite phrase par-ci par-là qui est ajoutée pour donner un peu plus d'informations à chaque fois que j'en ai... Je fais une petite mise à jour, mais vraiment c'est très très faible. En tout cas, je n'enlève rien, je ne fais qu'ajouter.
Eh bien Sylvie Renaud, merci d'être passée. Et je souhaite
merci à vous.
Une longue carrière à votre livre.
Merci.
Et ça peut durer.
Une longue carrière à vous aussi.
Interview.
Bien, merci aussi. Et bonsoir.
Bonsoir.
Interview.
Hey, the bird.